ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. Alors, la parasha commence avec un vav de liaison. Le vav fait donc la liaison avec ce qui a été dit précédemment. Ce qui a été dit précédemment, c'était l'Aseret HaDibrot, d'une part, et puis les trois mitzvot qui ont été dites juste après l'Aseret HaDibrot, qui concernait le Beth Amikdash, Mishkan Beth Amikdash, mais qui touchait de très loin, si on peut parler comme ça, ça touchait à Avodah Zarah, Shefichut Damim et Gilui Arayot, mais avec avec quelque chose de très fin pour, c'est rattaché à ces trois fautes, mais de façon très, très fine, très, assez, nous semble à nous éventuellement lointaine. Dire maintenant que la parcha de Mishpatim, c'est-à-dire toutes ces lois qui sont essentiellement donc des lois qui gouvernent les relations entre les hommes, c'est du Ben Adam la Chavero. Alors que selon ton. On a parlé en dernier dans la paracha de la semaine dernière. C'était les relations verticales, les relations entre Adam et enfin Hachem et le clan Israël et les êtres humains. Et donc, Rashi explique, avec à la base c'est un chazal, qui dit que la juxtaposition de ces deux parchiot sont vraiment liées grâce au sont pas simplement juxtaposés, mais sont liés grâce au vav de liaison de ve et le hamishpatim. Alors, c'est pour enseigner que le Sanhedrin doit siéger etzel hamigdash. C'est-à-dire, comme vous le savez, vraisemblablement, il y avait dans le binyan, dans l'immeuble de hamigdash, il y avait une chambre particulière qui était la résidence du Sanhédrin. Donc le Sanhédrin est vraiment à côté du Mizbeach. C'est pour dire que on peut pas séparer les deux sujets. On peut pas séparer les relations verticales et les relations horizontales. Le Maharal de Prague, dans son commentaire Gourarié sur le Chumash, il dit, le Beit HaMikdash, en fait, c'est le centre du monde. Pourquoi est-ce qu'il est le centre du monde? Parce que c'est là que qu'a lieu le lien entre le clan Israël et son Père Céleste, quoi, et HaKadosh Baruch Hu. Mais si le Beth Amikdash, dit le Maharal, si le Beth Amikdash n'assure pas le lien entre les hommes, s'il n'assure que le lien vertical entre les hommes et Hachem, alors il n'est pas le centre du monde, parce que son action est incomplète. C'est pour ça qu'on nous enseigne ici que le Sanhédrin doit être auprès du Mikdash, de telle sorte que le Beth Amikdash joue son rôle parfaitement. Donc, quelque part, il n'est Beth Amikdash que dans la mesure où, effectivement, le Sanhédrin siège au même endroit que le Mizbeach, si vous voulez. Là, c'est une première chose qu'il y a de ce. Ça, c'est sur le vav de Ve'eleh Amishpatim. Ensuite, le pasuk dit, Asher tassim lifnehem. Les Mishpatim, tu dois les poser littéralement devant eux. Eux, c'est les Bnei Israël. Et devant eux, les poser devant eux, ça nous dit quelque chose de la façon dont mon cher Rabbeinu, c'est à lui que ça s'adresse ici, dont mon cher Rabbeinu doit enseigner la Torah. Alors, Rashi ramène, qui est assez connu, le Asher Tassim Lifnehem, Rashi dit, il a dit, alors ça c'est, la formule elle est étrange, vous verrez, vous savez, Lota al da'atcha, l'omar, eshnelahem aperek, ve'alacha, shnaim עד שתהא סדורה בפיהם. כמי שניתנה. ואיני מטריח עצמי להבינם טעמי הדבר. ופירושו, je reviens tout de suite sur la traduction. ופירושו לכך נאמר אשר תשים לפניהם כשולחן ערוך ומוכן לאכול לפני האדם. Alors, y a comme presque procès d'intention. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, surtout ne t'imagine pas que tu pourrais te contenter d'enseigner ces sujets, la halakha par exemple, en question, deux ou trois fois, de telle sorte que les Bnei Israël aient cette halakha en bouche, quoi. Mais je n'ai pas du tout envie de me fatiguer à leur faire comprendre les raisons des mitzvot. Si tu penses comme ça, tu te trompes complètement. Le pasouk dit, non seulement si tu n'as pas le droit de le faire, mais l'ota ale al da'atra, il faut surtout pas, même que ça te vienne à l'esprit que je pourrais faire comme ça. Non, non. Même une telle pensée est absolument inacceptable. Alors que, on a ce rôle de situation où on dit quelque chose dans Moshe Rabbeinu comme si mon cher Abinou avait une tendance naturelle, c'est comme si on avait déjà pris sur le fait quelquefois d'enseigner juste pour être sûr qu'ils l'ont en bouche, mais ce n'est pas nécessaire qu'ils comprennent. Donc, on voit ici que Tassim, il venait poser devant eux, alors Rachid prend une métaphore de la nourriture, quoi. Il prend la table, il dit, ça doit être mis devant eux. Comme quand on met la table devant quelqu'un et qu'il n'a qu'à manger, tout est déjà prêt, tout est là, il n'a qu'à manger. Donc là aussi, tout doit être prêt. C'est intéressant, tout doit être prêt, c'est pas seulement connaître la fin. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils connaissent aussi? Il faut que tu leur expliques aussi les ta'amim, les raisons des mitzvot. On peut presque dire le goût des mitzvot avec la métaphore. Le ta'am, c'est à la fois les raisons, mais c'est aussi le goût. Le goût des mitzvot en question. Le havinem ta'amei hadavar pirusho. Il faut donc leur faire comprendre les choses, probablement à partir de la source, quoi. Savoir, c'est à la halakha. Elle vient de ce verset-là, qu'il faut interpréter de cette manière-là, etc. Tout ça, ça doit leur être enseigné. Il s'agit pas de leur donner le dalloz de la Torah, quoi, où il y aurait de façon complètement sèche les lois de la Torah. C'est ça qu'on appelle poser. Enfin, c'est ça l'enseignement, quoi. Tu dois leur enseigner les choses de cette manière-là. Sinon, ça s'appelle même pas enseigner, quoi. S'il n'y a pas Le tam, on ne peut pas manger, quoi. Les choses qui n'ont absolument aucun goût, on ne peut pas les manger. Donc là, métaphore, en quelque sorte, elle dit qu'elle, d'une certaine façon, on n'a pas vraiment accès aux lois si on ne sait pas d'où elles viennent, qu'est-ce qu'elles recherchent, etc. Pour vraiment comprendre la totalité de la loi, du Mishpat en question. C'est pas l'enseignement de la Torah si on fait pas comme ça. Ensuite, là, dans ce premier verset, effectivement, tous les mots pèsent lourd. Lifnehem, devant eux. Lifnehem, évidemment, devant qui on va le mettre? À qui est-ce qu'on va enseigner? Alors, Lifnehem, alors la drasha, elle est Lifnehem, velo Lifnehem, Ovde Kochavim. L'olifne goyim, dit Rashi. Et il explique, qu'est-ce que ça veut dire devant eux et pas devant les goyim? C'est que, afilu yadata bedin echad, même si tu sais pertinemment que, voilà, tu es devant un certain problème et tu sais ce que la loi du pays, la loi des goyim va dire. Et il se trouve que sur ce point particulier, elle dit exactement la même chose que la loi de la Torah. Yadata bedin echad, shem danin oto. Tu ne peux pas amener ton opposant, enfin celui avec lequel tu as un problème, tu ne peux pas l'appeler devant un tribunal de goyim. Pourquoi? Shamevi dinei Israël lifnei goyim mechalel et Hashem umiyaker Shem avodah zara.
J'ai besoin
Là,
de toi, chérie. J'ai besoin de
s'il vous plaît,
mettre Zoom en suspens
vous pouvez fermer
pour
votre
rappeler
micro,
Léa.
s'il vous plaît. Fermez, s'il vous plaît, votre micro. Shamevi dinei Israël lifnei goyim מחלל את השם, מייקר שם עבודה זרה להחשיבה, שנאמר, כי לא כצורנו צורם, ואויבינו פלילים. כשאויבינו פלילים, זהו עדות לעילוי יראתם. כסכי דילה. Ce qui est dit là, c'est que la loi, elle reflète une philosophie générale. La loi, elle nous dit des choses sur la culture qui a produit cette loi. Alors, il peut y avoir des recouvrements, ça, il peut y avoir effectivement sur certains points le même résultat. Mais le résultat, on y arrive par des chemins qui sont différents, et le chemin par lequel la loi des goyim arrive, c'est un chemin idolâtre. Parce que c'est basé sur leur idole, c'est basé sur leur façon à eux de regarder le monde, d'envisager les relations entre les gens, etc. Et d'aller se faire juger par un tribunal comme celui-là, comme un tribunal de goyim, c'est reconnaître la valeur de leurs idoles, en quelque sorte, et c'est, comme dit Rashi, un chiloul, une profanation du nom d'Hachem, puisque tu le mets de côté, tu choisis d'aller du côté de la civilisation idolâtre. C'est en cela que, même si le résultat concret sur un point particulier est exactement le même, en vérité, ce n'est pas du tout pour la même raison. Ce n'est pas basé sur les mêmes principes. Parce que c'est toute, tout système de droit, enfin tout, est basé sur des valeurs de base. Et les valeurs de base, eh bien, c'est les valeurs de la culture en question, c'est-à-dire les valeurs idolâtres. Donc, évidemment que la drasha de dire l'ifne velo l'ifne ov de kohavim, c'est une drasha qui sort le mot l'ifneim du sens qu'il aurait dans ce verset, puisqu'on dit ça, tu enseignes ça au Bnei Israël. Et évidemment, on va pas l'enseigner au goyim. Donc, c'est pas de ça qu'on apprend de l'ifneim. L'ifneim, c'est-à-dire, tu ne vas pas poser tes problèmes devant un tribunal qui est un tribunal de goyim, c'est-à-dire basé sur un ensemble de valeurs qui sont des valeurs idolâtres, et donc qui ne sont pas les valeurs de la Torah. Voilà, ça c'est si vous voulez, ce premier passouk ici.
Loi.
C'est
Pourquoi est-ce qu'on est si attentif à la loi et pas autre chose, par exemple, pourquoi on ne fait pas la même chose de médecin, pourquoi
Deux.
la médecin qui soit dans
Là-bas, on a effectivement le serfidouche qu'on a permis à un médecin de soigner. Pardon? Oui, on permet à un médecin de soigner parce qu'a priori, l'idée de soigner une maladie, c'est une drôle d'idée du point de vue de la Torah, parce qu'a priori, on considère que si Hachem a envoyé une épreuve à quelqu'un, une maladie ou quelque chose comme ça, c'est que ça a du sens. Ça veut dire c'est pour le mettre, pour le faire remarquer que, ou bien il y a quelque chose qui va pas bien dans la façon dont il présente les choses, dont il vit les choses, dont il a vécu les choses. Et donc, il faut qu'il corrige. Et la guérison, ce serait de corriger la raison pour laquelle la maladie en question a frappé. Par exemple, c'est pas une maladie, mais c'est bien comme ça qu'on interprète le tsaraat, la fameuse traduit par la lèpre. D'accord? La lèpre, on dit la lèpre, elle vient te dire, attention, tu vis dans un monde dans lequel tu pratiques le lashon hara. Et donc, pour que tu comprennes vraiment pourquoi il comprend que voilà, il faut arrêter avec ton lashon hara, mais il suffit pas simplement d'arrêter, il faut que tu comprennes ce que ça représente, ce lashon hara. Tu casses la société avec le lashon hara, et pour que tu comprennes vraiment ce que c'est de casser la société, eh bien, on va te faire ex tu vas expérimenter la solitude de celui qui est exclu de tous les camps du clan d'Israël, c'est-à-dire il est en dehors, il appartient, il peut pas habiter ni avec les Bnei Israël, ni avec les Levim, ni avec les Kohanim. Il faut qu'il sorte complètement pendant un certain temps du camp des Bnei Israël. Et là, il est vraiment tout seul, donc il va expérimenter les conséquences de sa conduite. Tu dis du lashon hara, ça casse la société, donc il y a plus, les gens sont tout seul, tu vas expérimenter toi-même ce que c'est que de te retrouver complètement seul, sans aucune société. Alors, on pourrait dire la même chose dans chaque maladie. Si on savait interpréter la maladie, dire voilà, cette maladie-là, elle correspond, ou cette douleur, ou voilà, cet empêchement, etc., il correspond à telle et telle conduite, eh bien, la guérison, c'est de guérir la mauvaise conduite. Et donc c'est un peu étrange parce que si on soigne, on va enlever la maladie. Donc c'est comme si on disait, ben, j'écoute pas le message. Hachem m'envoie un message et j'efface le message. La guérison par d'autres moyens, ça consiste à effacer le message. Et donc c'est pour ça qu'il y a une permission spéciale qui a été donnée au médecin de guérir. L'idée étant que Il reste évidemment aux malades à faire le travail qui aurait normalement aurait entraîné la guérison. Parce que là, plus de raison d'être, le message, il a été entendu. OK, ben alors on arrête le message. Il a été entendu. Ici, on te dit, ben, tu peux guérir, mais il reste le travail à faire sur le sens du message. Alors maintenant, si je vais maintenant chez un médecin, alors il y a un problème d'aller chez un médecin qui va appliquer des traitements. Si ces traitements sont des traitements qui sont à base d'idolâtrie, c'est-à-dire il y a toutes sortes de choses, les idolâtres, ils avaient toute une médecine donc qui faisait appel à des valeurs de l'idolâtrie. C'est ce médecin-là, on n'a pas, chez ce médecin-là, on n'a pas le droit d'aller. On s'appelle Darkea Emori ou des choses comme ça, des pratiques des Émoréens, etc. Ça, c'est écrit dans la Halakha. Alors, on considère que les médecins, aujourd'hui, a priori, ils n'appliquent pas des choses qui ont à voir avec l'idolâtrie. Donc, ce n'est pas un médecin idolâtre. Ça le. Alors, il n'applique pas non plus les valeurs de la Torah, mais la plupart des médecins et même et des patients d'ailleurs ne connaissent pas le dictionnaire qui permet de traduire la maladie en message, l'utiliser comme un vrai message. Je veux toujours dire, bon, ça veut dire peut-être que je fais quelque chose, mais que je fais pas bien, mais je sais pas précisément quoi. Et si on sait quoi, c'est sûr que c'est ça. Il y a des gens qui n'allaient pas chez le médecin. Gondwana ou Ramban, était médecin lui-même d'ailleurs. Ces gens-là, ils n'allaient pas chez le médecin. Ils considéraient que c'est à eux à faire un travail. C'est pas fait pour nous. Nous, on n'est pas à cette hauteur-là. Enfin, vous, peut-être. Moi, je trouve ça. C'est vrai que quand on réfléchit, c'est un peu frustrant d'aller chez un médecin pour effacer le message, quoi. Si on va plus loin, on pourrait imaginer aussi, faut pas beaucoup d'imagination, mais imaginez que par exemple quelque chose comme la cuisine. D'accord? La cuisine, c'est une cuisine typique qui souvent est une cuisine idolâtre, qui obéit à des valeurs. On mange ça pour telle et telle raison. C'est-à-dire, on est le cannibale, il savait pourquoi il mangeait le jarret de tel ou tel ennemi, parce qu'il pensait qu'en mangeant le jarret de quelqu'un qui était un très bon coureur, il allait devenir un meilleur coureur. Et ça, là, c'est a priori, c'est ça l'idée. Et peut-être qu'il y a déjà quelque chose de cet ordre-là dans l'interdit de manger du sang. Il y a madame. Parce que le dame et le nefesh, c'est la même chose, quelque part. Ou le nefesh est dans le dame, oui. Et donc, si on mangeait du sang pour essayer de. Bah, ce qu'on fait dans certains cas, on mange du sang pour augmenter telle ou telle capacité. Alors. Pourquoi? Ben parce que le sang, c'est, d'une certaine manière, la vie, quoi. Et donc, l'idée, c'est de manger, l'interdit, c'est du sang frais, quoi. Le sang qui a déjà été cuit, etc., c'est Assur Mi Drabanan, c'est pas un Issur de Raita. Voilà, donc ça c'est le premier verset. Je vais sauter la paracha du Eved Ivri pour l'instant, parce qu'on la traite toutes les années. On va avancer un peu. On va prendre. Il y a énormément de mitzvot dans cette paracha. Chaque phrase est en général une mitzvah. Donc, alors, on va aller au chapitre 23, Perukbet, Pasukbet, pardon, Tavgimelbet. Pasuk dit, לא תהיה אחרי רבים לרעות ולא תענה על ריב, לנטות אחרי רבים להטות. Voilà, ça c'est le verset Gimel, le verset Bet, pardon. Alors ils ont, dans le stone, ils ont traduit ne sois pas derrière la majorité pour le mal et ne réponds pas à un litige en adhérant à la majorité afin de détourner la loi. C'est-à-dire, ici, on te dit, on apprend plusieurs choses. Ce qu'ils ont traduit, comme ils disent, on a traduit d'après Rashi, il dit qu'un juge doit se prononcer selon sa compréhension de la loi, selon les preuves qui ont été exposées. Même s'il est très largement minoritaire, il ne doit pas changer d'avis pour suivre l'avis de la majorité s'il pense qu'il se trompe ou qu'il fausse intentionnellement la loi. Donc, ici, il y a beaucoup de choses qui sont apprises. C'est-à-dire, un dayan, un juge, il n'a pas le droit de se dire, ben, finalement, je vais dire comme la majorité. Par exemple, s'il voit qu'il est archi-minoritaire, ça ne vaut pas la peine de dire ce que je pense vraiment. De toute façon, j'ai aucune chance que mon avis soit accepté, parce que il y en a tous les autres pensent autrement que moi. Alors la halakha est qu'il n'a pas le droit de se taire, il est obligé de dire ce qu'il pense être juste. C'est même présenté d'une certaine façon comme c'est sa vérité à lui, en quelque sorte. Si lui il voit que c'est ça le émet, il peut se tromper, il peut se dire peut-être que je me trompe, mais c'est comme ça que je le comprends, c'est comme ça que je vois la situation. Donc, il n'a pas le droit de se rallier à la majorité. Il doit dire ce que lui, ce qu'il a produit par sa réflexion. Par sa réflexion, il produit ce qu'on appelle un psak din, il produit une décision. Et ensuite, il y a une halakha que le tribunal va répondre au problème selon la majorité des opinions qui sont dites. Comme vous savez, on compte pas dans un tribunal, chez les Bnei Israël, on compte pas les personnes. On compte les opinions différentes. Si quelqu'un, si par exemple, il y a un dayan qui dit, moi je pense que la personne est coupable pour telle ou telle raison. Et si le Dayan suivant qui est interrogé, il dit, ben moi je pense comme lui, leurs deux voix comptent pour une voix. Ils comptent pas. Celui qui dit je pense comme toi, il compte pas. C'est-à-dire que si les gens, le tribunal arrivait à dire, ils disent tous la même chose, avec la même raison, ça compte une voix. Il n'y a qu'une seule voix. On ne compte pas Les gens qui, à la limite, si tu n'es pas capable de produire un raisonnement original, on n'a pas besoin de toi, quelque part. Tu n'apportes rien. C'est pour cette raison que, par exemple, si un tribunal condamne à l'unanimité quelqu'un, la personne n'est pas condamnée. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'on n'a pas suffisamment travaillé le sujet. La preuve, c'est qu'on n'a pas trouvé d'autres arguments. Bon, des fois, on a l'impression que, bah, évidemment, si, quand la chose est évidente, voilà, on sait que A, Trucidé, pour une raison évidente, il l'a annoncé, il le fait, etc. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? D'après ça, si les juges ne trouvent pas une autre explication, ils doivent pas obligatoirement dire qu'il est innocent, mais même si on l'accuse, mais l'accuser pour un autre aspect de ce qu'il a fait, la personne sera innocentée, ne sera pas condamnée. Quelqu'un de coupable. Justement, c'est pour ça que on considère que il faut énormément travailler. C'est ce que la Gemara dit. Ils n'ont pas suffisamment travaillé. Si on avait plus travaillé, on aurait trouvé d'autres aspects de sa conduite qui sont peut-être aggravants, peut-être, ou peut-être au contraire, qui vont dans le sens de peut-être de circonstances atténuantes ou etc. pour diminuer sa responsabilité. En tout cas, il faut travailler plus. Pas artificiellement, si on va chercher effectivement, quand on analyse la conduite de quelqu'un, un être humain, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc, si vraiment on analyse la chose, on s'apercevra qu'il y a en général plusieurs motivations à un acte. Et en général, c'est un problème de complexité. La complexité, elle fait que, si on réfléchit bien, on peut considérer que voilà pourquoi il a fait comme ça, et il a agi de cette manière-là, pour telle ou telle raison. Et là, quelqu'un dira non, mais on peut imaginer, on peut aussi comprendre qu'il ait agi comme ça, vu les circonstances par lesquelles, les situations par lesquelles il a passé, ou la façon dont l'autre réagissait à ce qu'il lui proposait, etc. C'est pas artificiel, c'est simplement. C'est tenir compte de la complexité des choses, de ce que les choses ne sont pas en général réductibles à une seule raison. Un être humain, en général, il a plusieurs raisons à ce qu'il fait. Il a peut-être des plus importantes que d'autres, mais en général, on a plusieurs raisons. C'est ça la complexité humaine. Et un peu plus bas au Passouk, qui tirait Chamor Sonacha, Rovetz Tachat Masao, Vechadalta Meazov Lo, Azov Ta Azovimo. Si tu vois, donc, quand la situation se présentera, que tu vois l'âne de quelqu'un que tu es, Hachayes, oui, il ploie sous sa charge, est-ce que tu t'abstiendrais d'aider cette personne que tu, à l'égard de laquelle tu as de la haine, est-ce que tu ne vas pas l'aider à décharger l'âne? Tu dois assurément l'aider à décharger avec lui. Alors, ce verset-là, il est un peu compliqué. Premièrement, c'est qui le Sonacha, ton ennemi, celui que tu es. C'est problématique parce que on n'a pas le droit de haïr. Alors, la Gemara, elle dit que celui qui est donc l'objet de ta haine, c'est Mishera et Travero Oseavera. Si A a vu B faire une Avera, alors B est pour A, a priori, il est son ennemi. Parce qu'il a fait une Avera. Mais quand il voit que l'âne de cette personne, il est en train de s'écraser, de tomber, parce que la charge est trop lourde, il faut le décharger, on a l'obligation d'aller aider à décharger. Alors, ça c'est ce que dit la Gemara là-dessus. Il y a le Balai HaTosfot, les Tosfot disent là-dessus que cette mitzvah, elle est dite en particulier, Tosfot dit, face à celui qui a fait une avéra, donc, et on peut arriver à haïr l'autre, à haïr celui qui a fait la avéra, le haïr lui-même. C'est-à-dire avoir une vraie haine à son égard. Et là, la Torah, elle vient, elle dit, tu dois te forcer, tu es obligé de te forcer d'aller contre ton Yetzer Hara, en fait. Tu es obligé d'aller aider. Justement, lui, il faut l'aider. Et ne pas laisser ton Yetzer Hara prendre le dessus en disant, ben, il l'a bien mérité avec toutes les avérotes qu'il fait. C'est normal il est en train de perdre son âme. Donc, la voiture est en panne, ça veut dire, oui. Tu es obligé d'aller aider si l'âne ne vous parle pas. La voiture, marche aussi. La raison pour laquelle il faut aller aider, c'est parce que quand on a avoir de la haine pour celui qui transgresse, qui fait des avérotes, c'est pas tellement évident. Pas tellement évident parce que on pourrait en arriver à de la haine tout court. Donc ça, c'est interdit. En d'autres termes, si vous voulez, ce qu'on doit haïr, c'est la transgression, mais pas le transgresseur. D'une certaine manière, il faut être un grand bonhomme ou une grande bonne femme pour arriver à haïr quelqu'un qui fait une avéra. Sous-entendu, haïr la vera qui est faite plutôt que la personne. Ça ressemble beaucoup à la lecture de Bruria. Pour le passouk, Itamu Chataim Mina Aretz, demande que disparaissent après les Chataim, c'est-à-dire les fautifs de la terre. Mais Bruria, elle disait, c'est pas les fautifs qu'il faut rire. C'est les fautes qui doivent. C'est demander que les fautes disparaissent, pas les fauteurs ou les fautifs de la Donc, si tu vois quelqu'un qui respecte pas la Torah, c'est ça qui fait des avérotes, et peut-être même avérotes grossières, etc. Et sa voiture tombe en panne devant toi, tu es obligé d'aller aider. Dafka, lui, tu dois aller l'aider, plus que quelqu'un d'autre. Pourquoi? Toujours pour des raisons, ces fameuses raisons complexes, je pense. On a toutes sortes de, on appelle ça des négiotes, c'est-à-dire, on a toutes sortes de biais, en fait, qui nous amènent à la haine de quelqu'un. Par exemple, vous allez tout de suite donner cet exemple-là. Si quelqu'un a l'habitude de faire une khumra, est-ce que il ne va pas considérer les gens qui font pas cette khumra comme des gens moins bien que lui? Alors que c'est une khumra. Est-ce que font, c'est tout à fait permis? Il y a un grand exemple dans la Torah de cela qui a eu des conséquences absolument terribles. C'est quoi? Quelqu'un que vous connaissez bien. Quelqu'un qui a
Madame
une...
Marichon.
Pardon?
Madame Marichon.
C'est Youssef.
Dans
C'est
Marifa, il n'y
Youssef.
avait personne d'autre.
Mais pour sa femme, oui,
Ah,
l'olingoma.
ça, je n'ai pas... Ça, je n'ai pas entendu que...
Ravgonstein, c'est Youssef.
Voilà, c'est Youssef. C'est Youssef, justement. Youssef, lui, il était mahmir, et ses frères ne l'étaient pas. Et tout ce qu'il est allé raconter à son père, c'est que ses frères sont mechallel ceci, transgressent ça et transgressent ça. Et toutes ces transgressions n'en étaient pas. Alors c'est vrai qu'eux, ils ont encore fait exprès de faire les choses de façon très ambiguë pour qu'ils tombent dans le piège. Ils ont compris que il allait les dénoncer pour qu'ils se plantent complètement. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour qu'ils se trompent vraiment. Mais c'est ça, il a fait une grande carrière, je pense que vous avez déjà entendu parler de lui. La vérité, c'est que quand quelqu'un s'élève, quelqu'un travaille sur une mida, et cette mida-là, il a réussi à l'améliorer. C'est difficile de ne pas être un peu méprisant sur les pauvres gens qui n'ont pas du tout encore réussi à améliorer cette mida-là. Machgiach, il avait raconté que, à Slobodka, il y avait un élève qui avait pris comme habitude de prendre sur lui le Shabbat très tôt dans l'après-midi. Aussitôt que possible. On ne peut pas le prendre le matin à 10 h du matin, mais à partir du plag, on peut le prendre le Shabbat. Et lui, il prenait le Shabbat, ses manteaux. Et le halter de Slobodka, le Rosh Yeshiva, là-bas, il l'a appelé, il lui a dit, dis-moi, les gens qui prennent, que tu vois faire encore des mlachot Shabbat, enfin, quand toi, tu as déjà pris Shabbat, tu les considères comme quoi exactement? Si tu les considères comme des mechallel Shabbat, arrête tout de suite avec ta khumra et prends Shabbat comme tout le monde, à l'heure où tout le monde le prend. Parce que cette gaava, cet orgueil ou cette qui font que quand on a réussi à faire quelque chose, on a une tendance à mépriser ceux qui ne l'ont pas fait. Même si ces gens-là, ce qu'ils font, c'est pas obligatoirement une avéra ou pas, ou bien c'est quelque chose de très difficile dont ils n'ont pas encore réussi à se dépatouiller. On n'est pas en droit de haïr ces personnes ou de les mépriser. Et donc, les choumrot de ce genre-là, il vaut mieux pas les prendre. Ça vaut pas la peine. Pas la peine. L'autre côté est plus. C'est trop grave, si vous voulez. On va descendre encore un tout petit peu au pasouk Zayin. Midvar sheker tirchak. Venakiv et tzadik al taharog ki lo atzdik rasha. On traduit, éloigne-toi de la parole mensongère et n'exécute pas l'innocent ou le juste, car je n'absoudrai pas le méchant. C'est donc ce que dit Hachem. Voilà. Ravolbi, il expliquait que toutes les midot, c'est-à-dire toutes les qualités, les défauts, toutes les mesures, ça s'appelle, ouais, qui a priori nous apparaissent comme de mauvaises midot, en vérité, elles sont bonnes. Leur but, c'est un but positif. C'est-à-dire, c'est à nous à les utiliser, à les rendre bonnes, ces midot. Par exemple, la colère. Parfois, on doit se mettre en colère, dans l'éducation, etc. Éventuellement, on doit se mettre en colère. Enfin, je ne suis pas sûr qu'il faille jamais se mettre en colère dans l'éducation, mais certaines personnes pensent que il faut peut-être le faire. C'est peut-être l'éducation de soi-même, peut-être. L'éducation des autres, je ne sais pas si la colère n'est jamais bonne conseillère dans l'éducation, mais des fois, la colère, elle est justifiée parce que ça va permettre éventuellement d'arranger les choses, de prendre conscience de ce qu'on fait n'est pas bien, et d'arranger. De même, la tahava, le désir, c'est une création, ça peut créer de la kdusha, etc. Dans toutes les midot, c'est comme ça. Il y a une mida qui, a priori, fait exception. C'est la mida de Sheker. Le mensonge. Ça, c'est quelque chose, le mensonge, c'est quelque chose qui est fondamentalement mauvais. Le mensonge, il faut l'éradiquer en quelque sorte. Il n'y a pas de lieu où le mensonge serait quelque chose de positif. C'est la seule mida au sujet de laquelle la Torah dit Tirchak. Éloigne-toi de cette mida-là. Faut s'en éloigner. Absolument. En fait, même Arayot, même les relations sexuelles qui sont interdites, C'est marqué Loti Krevou, le galot erva. C'est un issour de Kirva, se rapprocher. Mais Sheker, c'est marqué Arhaka, on s'éloignait. Le Mesilat Yesharim, il passe en revue, comme vous savez, toutes les midot. Et sur le Sheker, il écrit, Ve omnam, toutefois, achacham, odieno, shekol zehu, efer ratson abore baruchu, umidat chassadav. Le Sheker, c'est le contraire de la volonté d'Hachem, c'est le contraire de sa mida de chesed. Moi, c'est Katouv, Dvar Sheker, Isna Tzadik. Le Tzadik, il doit haïr la parole de mensongère. Et c'est pour ça que c'est marqué dans le Passouk. Notre Passouk, Midvar Sheker, Tirchak. Alors, il faut remarquer qu'il n'est pas écrit Mi Sheker, Tishmor. Garde-toi de dire des mensonges. Elle a mis dvar sheker tichak. C'est-à-dire, il faut un éloignement, il faut fuir littéralement, mais même dvar sheker, pas le sheker, mais de la banlieue du sheker, il faut s'enfuir aussi. Le Sforno sur place, il dit, sur Midvar Sheker Tichak, il dit, Mikol Davar, Sheyuchal le Savev Sheker, Kamramzal, Eve Zahir, Midvarecha, Shema Mitocham Yelmedu le Sheker. Un homme doit dire la vérité. Mais il doit choisir la façon de la dire, cette vérité. Parce que s'il l'a dit d'une manière telle que il puisse en sortir du Sheker, alors là, il s'est vraiment trompé. C'est-à-dire, il faut vraiment faire attention. Même quand tu dis la vérité, il faut calculer, est-ce que moi, j'ai dit la vérité, mais est-ce que ça peut être transformé en chacun? Si ça peut, il faut pas dire la vérité en question. Faut s'éloigner du chacun, pas simplement pas dire du chacun, mais ne pas entraîner qu'il y ait du chacun. Alors, immédiatement, là, après ce verset-là, le verset d'après, il dit, Veshochad lotikach. Tu n'accepteras pas de shochad, c'est-à-dire, tu n'accepteras pas quoi que ce soit qui puisse te corrompre. Pourquoi? Qui a shochad, y a aver pikrim. Parce que le corrupteur, cette chose qui corrompt, elle aveugle celui qui normalement voit bien. Vi salef divrei tzadikim. Et elle va fausser les paroles des tzadikim, les paroles justes. Rachi sur Salef, on a traduit ici par fossé. Rachi dit Ketargumo ou me calquel, c'est-à-dire ça abîme. Divrei tzadikim, dvarim ametsudakim, c'est-à-dire mishpeté emet. Le shochad, des paroles qui sont des paroles vraies, paroles de vérité, le shochad va les fausser, va les faire apparaître comme mensongères. En vérité, il est dit ici, n'accepte pas le shohad. Mais à la limite, le Dayan qui reçoit un shohad, qui reçoit un cadeau pour le corrompre, il reste encore officiellement, il reste encore libre de ne pas fausser le jugement. Ici, on voit que la liberté de l'homme, sa capacité d'être libre plutôt, d'agir de façon libre, on voit combien elle est limitée. On voit que quand quelqu'un a ce qu'on appelle une néguia, c'est-à-dire qu'il est touché d'une certaine manière par le sujet sur lequel il doit trancher, il peut plus voir, il voit déjà plus la vérité. Et s'il reçoit un cadeau, même dans l'esprit de dire la vérité, il ne pourra pas ne pas être influencé par le cadeau. Dans la Gemara, on voit combien les Chachamim faisaient attention de pas se faire, enfin de jamais rien accepter qui soit de l'ordre du Shohad. Agmar, elle raconte que un des Amoraïm, un des maîtres de la Gemara, était en train de juger. Il y a un oiseau qui a passé et qui a une plume de l'oiseau est tombée sur lui. Pas une saleté, une plume. Et quelqu'un est venu et lui a enlevé la plume. Alors, Amémar lui a dit, OK, je peux plus juger maintenant. Tu m'as rendu inapte à juger. Il considère que, voilà, tu m'as rendu un service de rien du tout, d'ailleurs. Encore, c'était pas une saleté, c'était une plume. Tu as enlevé la plume. Je peux plus juger. Si quelqu'un avait rendu le plus petit service à un juge, le juge considérait que il n'était pas saoul pour juger, il n'avait pas le droit de juger quelque chose où celui qui lui avait rendu un service était partie prenante. Les Baal et Moussar disent que c'est vrai sur toute la avoda de l'homme. Il faut faire attention à toute négiya, même la plus petite, qu'elle ne nous trouble pas, qu'elle ne fausse pas notre regard sur les choses. Mais le Chazon-Ish, il n'est pas d'accord. Le Chazon-Ish, il dit qu'un Talmid Chacham, il n'est pas soupçonnable de céder à un shohad ou à une neguiha personnelle. Parce que le Talmid Chacham, tout son être, c'est d'essayer d'échapper complètement à toute neguiha. Alors qu'est-ce que la Torah a interdit? La Torah, elle est venue nous dire, il faut pas prendre le shochat. Fait partie des chukim de la Torah. Le shochat, ça fait pencher d'un certain côté. Mais si la Torah ne l'avait pas dit, ni le Chazonish, nous, on ne l'aurait pas dit de nous-mêmes sur un Talmid Chacham. Donc là où la Torah l'a dit, c'est bon, on ne peut pas le généraliser, dit le Chazon-Ish. Alors, il y a un autre sujet dans Parshat Mishpatim, un sujet qui a priori n'a rien à voir avec les Mishpatim, avec les relations entre les hommes. Un peu plus bas, à partir du Passouk Tetvav, toujours de ce chapitre 23, Basouk dit, après avoir donné un dîne de Loïshama Alpicha, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de mentionner le nom d'une idole ou de la prendre comme référence, c'est-à-dire t'as pas le droit de donner un rendez-vous à quelqu'un en disant on se donne rendez-vous là devant l'église de machin chouette. On n'a pas le droit. On ne peut pas prendre l'église comme référence. Mais juste après, le passouk dit, Shalosh regalim tachog li bashana. Tu fêteras trois fêtes pour moi par an. Voilà. Ça veut dire que à la fin de la parasha de Mishpatim commence Seder Moed. C'est-à-dire, on est en train de, voilà, l'ensemble, jusqu'à la fin de la paracha, on va parler enfin presque, on va parler des fêtes. Presque jusqu'à la fin. Curieusement, alors, on dit, voilà, il y aura trois fêtes, c'est Pessah, Shavuot, Sukkot. Et Chag HaMatzot, Tishmor, Shivat Yamim, Tochal Matzot, Kasher Tzivitikha, Nemoed, Chodesh HaAviv. C'est-à-dire, la première fête, elle n'est pas appelée Pessah, elle est appelée Chag HaMatzot, la fête des Matzot. Parce que les 7 jours de Pessah, ils sont caractérisés par le fait qu'on mange des matzot. Ils sont pas caractérisés par le Korban Pessah. Le Korban Pessah, ça concerne le premier soir, c'est tout. Et pourquoi tu mangeras des matzot? comme je te l'ai ordonné. Et ça sera une fête qui doit être le Chodesh Aviv. C'est le mois du printemps. Kibo Yatsata Mimitsraï. La première fête, elle a lieu à ce moment-là parce que c'est à ce moment-là que tu es sorti d'Égypte. Et il ajoute, le verset ajoute, Velo Irao Panaï Rekam. Dans ces fêtes, ces trois fêtes là, Lo Yiraou Panay Rekam. Il Lo Yiraou, ils ne verront pas mon visage. Pardon? Yiraou. Possible que la grammaire dise comme ça, mais en fait, c'est ils ne se présenteront pas devant moi, Raoult, se présenteront pas devant moi les mains vides. C'est ça que ça veut dire. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de l'Anaïrikam? Rashi dit, sur ce verset, alors, Keshetavou lirot panay, quand vous viendrez voir mon visage, littéralement, de Regalim, lors de ces fêtes de Regalim, dans ces trois fêtes de pèlerinage, disons, Avioli Olot, amenez-moi les holocaustes. C'est-à-dire, vous ne viendrez pas les mains vides, vous m'amenez quelque chose, holocauste. Holocauste, c'est donc les corbanotes, une hola, corban qui est entièrement consumée. Il est mangé par le misbéar, si vous voulez. De manger par l'autel, par opposition à d'autres corbanotes, qui sont, où la chair de corban est mangée, certaines fois par des kohanim, d'autres fois par les propriétaires du corban. C'est présenté ici comme si vous venez les mains vides, alors vous ne verrez pas mon visage. Le printemps qui se dit Aviv, Rachid dit que Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Aviv? C'est la Lachon Av. Aviv, c'est construit sur Avet, qui est le père. Bechor verishon, levachel perot. Il est, pourquoi il est appelé père, Bechor, premier, premier-né, premier? Parce que c'est le premier mois où les fruits arrivent à maturité. Alors ensuite, Passouk dit, après ce Chag HaMatzot, il y a Chag HaKatsir, Ikure Maasecha, Asher Tizra Basade, ça c'est Shavuot, le Chag HaAsif, le Tzet HaShana, Beospecha et Maasecha, Min HaSade. Ça c'est Sukkot. Rashi dit Chag HaKatsir, ou Chag Shavuot. Il faut comprendre ici pourquoi c'est pas marqué Chag Matan Toratenu. Non. Pourquoi c'est pas marqué là? Non. Pourquoi c'est pas marqué là? De la même manière que dans Chag HaMatzot, on dit que c'est à cause de la sortie d'Égypte, on aurait pu expliquer que cette fête de Shavuot, elle est à cause de Matan Torah. Donc, c'est une suite de questions, un peu sans beaucoup de réponses. Donc, c'est fait. C'est Shalosh Regalim, ça veut dire trois fois. Trois Regalim, c'est trois fois par an, vous ferez la fête. C'est en plein milieu de Parshat Mishpatim. Et on répète à la fin, dit Shalosh Pe'amim Bashana, trois fois par an, Yirae Kol Zechurcha El Pnei Ha'adon Hashem. Encore une fois, trois fois par an, tous les mâles, tous tes mâles, les mâles du clan d'Israël, donc, Iraou, de nouveau, Yirae, donc, de nouveau le même mot, c'est-à-dire se présenteront devant moi, elles venaient devant le visage, disons, devant Ha'adon, le Seigneur Hachem. Ici, curieusement, là, tout à coup, c'est pas elles venaient Hachem, tout court, elles venaient Ha'adon Hachem. On a introduit, avant de dire Hachem, on dit le Seigneur Hachem. Oui.
être avec un médecin de mensonge, il faut revenir à une instance de mérite.
Un lien avec le mensonge.
Il faut revenir à une instance de mérite, c'est-à-dire ne pas une sorte de mensonge en se présentant devant la chaîne sans avoir donné quelque chose de nous-mêmes.
Je ne sais pas faire le lien avec la notion de mensonge. A priori, je dirais que c'est un problème d'akaratato, c'est un problème de reconnaissance plutôt. Pourquoi est-ce qu'il faut amener quelque chose? Qu'est-ce que c'est ces fêtes-là? Tu feras des fêtes devant moi parce que c'est grâce à moi que tu as pu te réjouir avec les récoltes et de toutes sortes et la possibilité de mettre tout ça dans les greniers, etc. Et donc là, il faut, pas en termes de mensonges, mais en termes de la karatatov, ou peut-être de... C'est comme si Hachem disait, pour que vous ne soyez pas complètement en dette, alors apportez-moi aussi quelque chose. Un peu la même histoire que la lumière qu'il faut amener dans le Betamigdash. Comme si Hachem avait besoin de lumière. Hachem dit, voilà, pour que vous soyez pas en dette, alors, éclairez-moi. Ici, j'ai l'impression que c'est du même ordre. C'est pour que vous ne soyez pas en dette, alors donnez-moi quelque chose. Si vous venez à cette fête, vous me donnez quelque chose, alors ça diminue la distance entre nous quelque part. Moi, je vous donne tout et vous ne faites rien. Voilà. Faites un geste aussi. C'est aussi pour ça que le Korban Tamid, il est appelé Lachmi, mon pain. Bon, c'est toujours cette idée de réduire la distance entre Hachem et le clan Israël. Enfin, elle n'est pas vraiment réduite, mais on nous donne l'impression de la réduire. Peut-être vous avez raison, mais je vois pas le lien avec le Sheker.
Avoir quelque chose.
Oui, mais ça, c'est pas un shaker. C'est pas un mensonge. C'est simplement, tu crées une dette. Une dette de reconnaissance et éventuellement, j'essaye d'exprimer ma reconnaissance pour diminuer la dette de reconnaissance. Et ceci étant, une fois que c'est dit ici, alors ça fait partie des Mishpatim, d'une certaine manière. C'est le Seder des Moadim, et ça fait partie des Mishpatim. Alors, comment ça s'inscrit dans les Mishpatim? Les Mishpatim, a priori, c'est des relations horizontales. Qu'est-ce que, or ici, Hachem est en train de dire, ben, je vous parle de relations, tout à coup il remet les relations verticales. C'est-à-dire, moi je vous ai donné, maintenant vous m'apportez quelque chose, on est de nouveau dans les relations verticales. C'est comme, un peu paradoxalement, comme si Hachem voulait faire en sorte que la relation qui est une relation verticale, il veut bien la poser horizontale. Il met ça parmi les relations horizontales, comme si la relation de moi je vous ai donné et vous me donnez, ben c'est une relation, c'est devenu une relation analogue aux relations entre les humains, et bien que ce soit une relation entre Hachem et le Klal Israël. Comme si Hachem voulait faire, il acceptait de jouer le jeu en quelque sorte avec nous. C'est peut-être, c'est ça que ça veut dire, je veux bien être votre Elohim. C'est-à-dire, comme c'est marqué, vous allez devenir mon peuple et moi je deviendrai votre Dieu, en fait. Et ça, ce serait une relation presque, voilà, une relation plus horizontale, en quelque sorte. Je me demande si c'est ça que ça vient nous dire ici, parce que sinon, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Ici, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça fait là? Alors, peut-être qu'on peut entendre ici, El Pene Ha'adon Hashem. Adon, c'est sûr que Adon, c'est un seigneur, mais a priori, c'est un seigneur humain, a priori. Adon, c'est devenu un mot, aujourd'hui, c'est monsieur, quoi. Donc, Adoni, qu'est-ce que fait ce mot, Adon, qu'est-ce qu'il apporte de Alpene Hachem, non? C'est plein dans la Torah de Alpene Hachem. Qu'est-ce que l'Adon vient dire ici? Alors, dans la Drasha, on voit, ça va un peu dans ce sens-là. Parce que, à cause de ce mot Adon, ici, on apprend que celui qui est esclave, il est patour de la mitzvah, justement, d'aller à Yerushalayim se faire voir par Hachem. Parce que le verset ici vient dire que seul celui qui a comme seul Adon Hachem, lui, il est astreint d'aller à Yerushalayim 3 fois par an, etc. Mais celui qui a un autre maître que Hachem, c'est-à-dire l'esclave, qui lui a un autre Adon, il est dispensé d'y aller. OK? Donc là aussi, ça va dans le sens de Adon, au sens de presque un. Ici, paradoxalement, on compare un seigneur humain au seigneur Hachem. Donc c'est toujours cette idée de. Comme si on avait voulu basculer la relation verticale, ici en relation horizontale. Alors, après cela, il y a un drôle de verset. Lotisbach al Chametz Dam Zifri, Velo Yalin Chelem Chagi Ad Boker, Reshit Bikure Ad Matcha Tavi, Bet Hashem Elokecha, Lot Mashel Gdi Bachalevimo. Pour arriver, il faudrait essayer de comprendre. Il y a un Rashbam. Le Rashbam, il dit quelque chose ici de. D'important, le petit-fils de Rachid, mais je ne me souviens plus où est-ce que c'est. Voilà. Oui, le Rachid Midi, après avoir évoqué donc les fêtes comme commémoration des bénédictions dont Israël jouira sur sa propre terre au cours du cycle agricole. C'est des bénédictions qui étaient inconnues dans le désert. Il n'y avait pas le cycle agricole dans le désert. La Torah ordonne au peuple d'Israël de prendre conscience qu'il doit remercier le Seigneur qui l'a gratifié de tous ses bienfaits. Donc la Torah, elle dit que je veux justement que tu viennes remercier, en fait, te présenter devant moi et donc remercier le Seigneur, justement, toujours cette relation. À ce moment-là, le Korban Pessah, bon, ça c'est un point technique, je ne sais pas très bien ce qu'il fait là, mais le Korban Pessah, tu n'as pas le droit d'en faire la shrita avant que tu aies détruit tout le Hametz, qu'il faut détruire le 14 Nissan, la veille de Pessah. Jusque-là, tu peux pas, tant que tu n'as pas détruit le Hametz, tu n'as pas le droit de faire la shrita du Korban Pessah. Tout ça, ça se passe le 14, mais c'est un ordre. D'abord détruire le Hametz et après faire la shrita de ce qui va devenir le Korban Pessah. Et ensuite, Rishit Bikurei Admatra, ça c'est la mitzvah de Bikurim qui commence à Shavuot. La saison, on peut commencer à apporter les Bikurim, parce que c'est à ce moment-là que les fruits des arbres commencent à être mûrs. Là, tu peux les amener au Beth Amikdash, les apporter en cadeau en quelque sorte. Et puis ensuite, l'autre va chez le Gdi, ça, alors on ne sait pas vraiment ce que ça fait là. Bon, c'est de là qu'on apprend l'interdit de Bassar Bechalav, c'est-à-dire de mélanger la viande et le lait. Dans le verset, c'est marqué seulement un lait, un agneau, on n'a pas le droit de le cuire dans le lait de sa mère, mais on a étendu un agneau dans n'importe quel lait, et pas seulement l'agneau, mais toutes les viandes dans n'importe quel lait. Donc. Et puis après, il y a une extension, c'est pas seulement, on n'a pas le droit de cuire, on n'a pas le droit de les manger ensemble non plus. Bon, on va s'arrêter là.